On est en train d'étudier encore le livre de Jacques. On est rendu au chapitre 4, les versets 11 et 12. Puis dans cette portion de cet épître-là, Jacques, il nous parle sur le jugement des autres par les critiques. Puis ça, on a-tu vraiment besoin de se le faire dire que ça l'arrive souvent qu'on critique, puis qu'on critique ses autres? C'est dans la nature humaine, c'est dans la nature charnelle que les gens, quand ils sont pas contents, ils jugent les autres, ils critiquent, puis ils condamnent, puis il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui viennent. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vaincu cela, puis qui sont plus dans cette dimension-là. Mais s'il y en a qui sont encore là-dedans, le Seigneur veut nous parler ce soir, va essayer de nous faire comprendre un petit peu plus creux, en profondeur, comprendre c'est quoi que la Bible parle à ce niveau-là sur le jugement des autres. Quand les gens se jugent, puis se regardent, puis ils se condamnent ou ils se disent des paroles blessantes. Les mauvaises paroles doivent être bannies des conversations. Quand on jase ensemble, c'est sûr qu'on aime ça que être écouté, être entendu. On a des frustrations, on a des peines, on a des passer à travers des moments difficiles avec des personnes, puis on veut partager ça à l'autre. On veut que les gens savent qu'est-ce qu'on passe à travers, puis ça. On veut juste comme se vider le cœur, mais des fois, notre cœur est rempli d'amertume. Puis ça, cette amertume-là, c'est une réaction négative qu'on a développée parce qu'on a médité le mal à cause qu'on a souffert, puis là, on y en veut à la personne. Puis là, on médite du mal, puis là, on s'en va en voir un autre, puis là, on répand notre amertume. On répand, puis là, on dit des affaires, il a fait ci, il a fait ça, puis il n'aura jamais dû faire ça, puis là, on critique. Puis là, des fois, on va jusqu'à juger les personnes. On voudrait que les personnes disparaissent de leur d'alentour de nous. Dans Jacques 4, le verset 11 et 12, il dit, « Ne parlez point en mal les uns des autres. » Jacques en a déjà parlé dans un peu plus avant, dans son épître, dans ses épîtres, mais il en reparle encore. Il dit, « Ne parlez point en mal les uns les autres, frères. » Celui qui parle en mal d'un frère, ou qui juge son frère, c'est deux choses, parler mal ou juger. Mais il parle mal de la loi, puis il juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dans ce passage-là, le Seigneur veut nous faire comprendre d'arrêter d'avoir de mauvaises paroles contre nos frères. Toutes les raisons qu'on se donne, mais si on les analyse, sont toutes pas bonnes. On n'a pas raison de parler mal des autres. Ça peut arriver que tu rappelles un cas, tu expliques une chose pour même faire des mises en garde, mais c'est pas dans le but de commérer puis critiquer. Puis juger, parce que là, il y en a qui vont jusqu'à prononcer des sentences. C'est ça qui est jugé. C'est pas juste de dire la chose, c'est de dire des sentences. Puis, contre les frères et sœurs, contre les autres que Christ est mort sur la croix aussi pour eux, puis Christ pardonne leurs péchés à eux aussi qu'autant que moi j'aime être pardonné, là, tu sais. Fait que, on veut pas relâcher l'autre, dans le sens, il nous a offensés, on a eu de la peine, puis là, on se met tout de suite au lieu d'apprendre à pardonner, parce que Dieu va y pardonner. Mais moi, si je pardonne pas, je suis en train, moi, de me charger d'un jugement du Seigneur. Parce que là, le Seigneur va être obligé de me serrer à vis à moi, parce que je veux pas pardonner. Parce que l'autre, il a confessé son péché à Dieu ou son problème. Dieu, il a pardonné. J'ai pas de raison de continuer cela, puis de répandre ça à l'autre, puis en plus d'avoir des sentences. Parler mal et le juger. C'est ce qu'il dit dans Jacques 4, 11. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, faut apprendre à s'aimer. S'aimer Puis là-dedans, dans l'amour, il y a le pardon, puis la réconciliation. Autant que ça dépend de nous, on faut faire tous nos efforts pour se réconcilier quand on est en chicane avec quelqu'un. Ceux qui parlent en mal, ce que Jacques est en train de dire, ceux qui parlent en mal des frères, ils s'attaquent puis offensent directement Dieu puis ils risquent un jugement. Dans Jacques 4, 11, il dit, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Là, c'est comme si tu te mets à parler puis tu prononces tes jugements, tu es en train de, comme si tu parles contre la loi de Dieu, parce que Dieu te dit, fais pas ça. C'est écrit dans l'Ancien Testament aussi, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est écrit dans l'Ancien. Mais quand on désobéit à Dieu, on est en train de c'est comme si on offense Dieu, on transgresse sa parole, on s'attire le jugement de Dieu. Dieu va être obligé de nous serrer à la vis, il va être obligé de nous pogner par un bras puis de nous mettre en punition. Il y a ses manières de le faire. On faut pas chercher à résister dans ces cas-là puis continuer à pousser puis à développer de la méchanceté en mauvaises paroles et en jugement. Faut plutôt apprendre à pardonner pour que les choses se passent facilement. Sommes-nous des gens qui cherchent à mettre en pratique la parole ou nous sommes les juges? Parce que dans Jacques, il dit dans Jacques chapitre, « Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Si tu te sers de la loi, puis tu dis, la loi est pas bonne, ou la loi doit être changée, Dieu n'avait pas raison de dire ça, puis moi, je dis que ce gars-là, il a fait ci, il a fait ça, c'est un ci, c'est un ça, puis il mérite ça. Mais là, je suis en train de dire que la loi est pas correcte, puis que moi, je décide de faire le contraire. Fait que là, es-tu le juge? C'est-tu moi qui est établi législateur comme celui qui décide des règlements, comment que ça doit marcher dans le monde, puis comment est-ce que Dieu doit décider? Est-ce que j'ai été nommé par Dieu le celui qui fait les lois ou je suis quelqu'un qui doit les mettre en pratique? Bon, on est tous des gens qui doivent les mettre en pratique. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de la loi de Dieu. Si Dieu dit d'aimer ton prochain, de pardonner, d'effacer les fautes, de couvrir les fautes, tout ça, dans l'amour, la charité couvre une multitude de péchés. Puis tu ne penses pas supérieur, puis tu vas chercher l'unité, puis tout ce que Dieu demande, parce que Dieu le demande. Nous ne sommes pas Dieu. On est des observateurs. On est ceux qui doivent mettre en pratique la parole. Puis faut apprendre à se soumettre. C'est pas moi qui va établir les sentences sur les autres parce qu'ils ont fait ça. Le Seigneur va s'arranger avec eux autres. C'est pas à moi à dire Seigneur, frappe-les. Tu sais, c'est comme si tu veux qu'un jugement tombe sur la personne. Il y en a qui vont jusqu'à là. Le mot juge dans ce temps-là, de juger, c'est plaider, juger, être jugé, avoir jugé, discerner, condamner, être d'avis, décision, avoir résolu, avoir décidé, puis mettre en jugement, faire une distinction, avoir des pensées. En tout cas, tous les sujets, c'est tu focuses sur la personne puis son crime qu'elle a fait, puis là, tu vises là. C'est ça que se penser juge des autres. Elle a fait ça, elle n'aurait pas dû faire ça, puis là, elle a fait ça, puis là, elle mérite ça. Fait que là, tous les dialogues qui vont autour de ça pour essayer de que l'autre se fasse frapper. Plutôt que dire, Seigneur, pardonne-y, comme même Étienne a fait, comme Jésus a fait. Il se faisait mettre à mort, puis il y en a un que Jésus était sur la croix, puis Étienne se faisait lapider, puis ils ont, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pas commencé à dire, sont-tu fautifs, ils ont-tu raison de faire ça, il a pas d'affaire à faire ça, puis là, d'en mettre, puis de critiquer, puis d'en mettre, des juger. Puis ça, il faut apprendre. C'est pas le réflexe humain de beaucoup de personnes, je pense la majorité, c'est de se défendre avec leurs paroles, puis ils se défoulent. T'as été blessé, tu te défoules, tu parles aux autres de ce que t'as vécu. C'est quand tu es rendu plus haut dans la communion avec Dieu que tu vas commencer à pardonner, puis tu vas commencer à te maîtriser, maîtriser ta bouche. Parce qu'il dit, celui qui s'est tenu sa langue en bride, Job que dit ça, c'est un homme parfait. Si tu arrives à te maîtriser dans ta bouche, là, puis à pas dire rien dire, tu es rendu un homme parfait, capable de tenir tout ton corps dans la bride. C'est le bout le plus dur à mettre en bride, la bouche. Parce qu'elle, c'est, ah ouais, on en dit des affaires. Ça défoule. Mais si on a de l'amertume, ça répand du venin. Puis les autres sont contaminés. Paul, il avait déjà enseigné que le fait de juger les autres, quand tu juges les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Dans Romains 2, les versets 1 à 3, ça dit, « Ô homme, qui que tu sois, peu importe qui ce que tu es, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un frère réputé, peu importe qui ce que tu es, tu es toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Il dit, « Puisque toi tu juges, tu fais les mêmes choses. » C'est vrai. Souvent, les choses qu'on critique, c'est les autres, on les fait nous aussi. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? C'est un fait. Si quelqu'un juge les autres, il est sévère avec les autres, ça va y revenir. Il va se faire juger par le Seigneur de la même manière qu'il a retraité les autres. Parce qu'on a tous tombé dans les mêmes affaires. Que ce soit cette semaine, ou v'là 2 ans, ou v'là 5 ans, ou v'là 20 ans, même avant d'être chrétien, j'ai déjà fait les mêmes affaires. Il n'y a pas grand-chose qu'une personne n'a pas fait. Tuer, tout le monde a haï. Voler, tout le monde a pris quelque chose au moins une fois dans sa vie que ça lui appartenait pas. Puis là, si on est sans pitié contre ceux qui commettent de telles choses parce qu'ils nous l'ont fait à nous, puis là, on est sans pitié contre eux, puis là, on les descend, puis on les juge, on veut le châtiment qui leur tombe dessus, mais on a fait la même affaire, nous aussi, dans notre vie à quelque part, puis on mérite le même châtiment que l'autre. Jésus nous a dit de ne point juger les autres, car nous serons jugés avec la même mesure qu'on aura pris pour juger les autres. Et dans Matthieu 7, les versets de 1 à 5, il dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, puis n'aperçois-tu pas que tu as une poutre dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Dans ce passage-là, les premières idées, c'est « juge pas ». Pardonne. Tu veux être pardonné? Pardonne. Juge pas. Parce que tu vas être jugé par Dieu de la même mesure, de la même façon que tu as jugé les autres. Si tu étais sans pitié, puis sévère, puis dur avec les autres, tu vas te revenir contre toi, puis tu vas te faire juger de la même façon. Puis quand on est porté toujours à regarder les problèmes des autres, là, les petites poils qu'il y a dans l'œil de l'autre, puis qu'on remarque même pas qu'on a une poutre dans le nôtre, on a une poutre, on voit pas notre poutre, mais on est capable de voir les poussières dans les yeux des autres. Il faut apprendre à enlever notre poutre. Quand on réalise comment que ça marche, là, on va dire, je peux pas critiquer contre un autre. Je vais commencer par, Seigneur, enlève-moi ma poutre. Tu vas réaliser que c'est Dieu qui les enlève les poutres, c'est pas toi. Fait que l'autre aussi, c'est Dieu qui va y enlever sa poutre. Puis prie pour lui à la place que de vouloir qu'ils soient frappés. Moi, je veux pas être frappé pour mes poutres. J'en ai des poutres. Qui a pas de poutres ici? Qui a pas de péché à se faire enlever dans sa vie? On a toutes des poutres. Fait qu'il faut commencer par garder nos poutres, puis demander à Dieu de nous en sortir. Puis une fois qu'on va être compris comment est-ce qu'on l'enlève, la poutre, on va être compris que c'est pas nous qui les enlevons, c'est Dieu qui les enlève. On va être plus compatissant envers ceux qui n'ont encore des pailles, des petites poussières, des pailles dans leurs yeux. Oui, Dieu ne nous demande pas d'être aveugle sur les péchés. Parce qu'il faut comprendre, ça dit de pas juger les autres, mais ça veut pas dire qu'il faut être aveugle sur les péchés. Parce qu'il faut discerner aussi. Puis il faut prendre garde. Il faut faire attention pour pas participer au péché d'autrui. Puis si on voit du péché, on voit des choses qui sont vraiment pas correctes, là, mais il y a des procédures à prendre qui sont écrites dans la Bible, de discipline. Mais c'est pas la critique puis le jugement. Oui, il va y avoir un jugement si la discipline est appliquée selon le Seigneur. On n'est pas aveugle sur les péchés, puis on doit quand même discipliner dans l'Église. Ça, c'est Matthieu, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 18, les versets 15 à 17. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça ne dit pas que tu vas le juger puis le critiquer, parler mal contre lui. Tu vas le voir puis tu parles doucement avec lui. C'est la première étape dans la discipline. Tu peux pas souhaiter que le Seigneur le frappe, tu n'y as même pas parlé encore. Puis là, il dit, va le voir, puis arrange-toi pour régler ça avec lui. Si tu n'écoutes pas, là, il y a un deuxième pas dans la discipline. Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déposition de deux ou trois témoins. Là, tu vas le voir, deux ou trois personnes. Après ça, s'il les refuse de les écouter, là, tu le dis à l'Église. Puis s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. C'est là que le jugement s'applique, puis que l'Église déclare, ce gars-là, c'est plus un frère. C'est rendu une personne dans le monde. Il n'y a pas eu de mauvaise parole, il n'y a pas eu de jugement, de critique, puis de condamnation, puis de demander à Dieu de le frapper. C'est tout simplement, c'est plus un frère. Puis l'Église a pris une décision ensemble, sans péché. Voyez-vous? Fait que ne pas juger, c'est une chose, mais d'être capable d'établir la discipline comme le Seigneur nous demande de le faire, ça c'est correct. Pour ce qui est de condamner les autres, parce que c'est sûr que les gens, il y en a qui vont être condamnés. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si la personne ne se repent pas, puis elle continue ses méchancetés toute sa vie, puis elle en meurt, puis qu'elle est encore dans ses péchés, le Seigneur va s'arranger avec lui. Pour ce qui est des autres, un seul peut juger les autres, puis c'est Dieu.
Amen.
Dans Jacques 4, 12, il dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ça veut dire que c'est pas à nous d'établir des jugements, puis de critiquer, puis de juger. C'est Dieu qui va s'arranger avec. Si un seul qui est législateur et juge, un seul législateur, c'est celui qui crée les lois. Puis le juge, c'est celui qui donne des sentences quand elles ne sont pas appliquées. Un seul a créé les lois et qui donne des sentences, c'est Dieu, pas à nous. Le Père, Dieu le Père, a remis tout jugement au Fils.
Amen.
C'est Jésus, à la fin, qui va juger tout ce qui a été jugé. C'est pour ça que Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans Actes 17, 30 et 31, ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Fait que ces gens-là qui ont péché, qui nous ont blessés, ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce don qu'il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Celui qui est ressuscité des morts, c'est Jésus. C'est lui qui va être le juge à la fin, puis qu'on est appelé, tout le monde sont appelés à se repentir. On voudrait que les autres soient frappés, oui, mais laisse-y du temps de se repentir. Quand ça va être le temps des jugements? Après. Le gars peut se repentir dans 5 ans. Si j'ai demandé, j'ai prié pour qu'il se fasse frapper, puis que la foudre lui tombe dessus, puis qu'il en meure, là, tu sais. On veut qu'il meure. On lui a pas donné la grâce de pouvoir être pardonné. Comme nous, on a fait des péchés, puis combien de temps que du monde ont été obligés de nous endurer avant qu'on se repente. Puis même après s'avoir repenti, on en a fait d'autres. Fait qu'on est en continuelle répétition de faire des choses qui déplaient à quelqu'un, puis que là, ben, pardonnons-nous les uns les autres. Soyons capables de se supporter les uns les autres dans nos faiblesses, dans nos combats, dans nos petites prises de bec des fois, mais c'est des petites affaires passagères, parce qu'il y a des situations, mais ça passe, après ça, on oublie ça. Passer par-dessus les affaires. Il y a plus de gloire à pardonner que la Bible a dit dans l'Ancien. Il y a plus de gloire dans le pardon, de passer par-dessus les fautes. C'est de marcher dans l'amour, parce que l'amour, la charité, couvre une multitude de péchés. Les chrétiens doivent apprendre à avoir de bonnes paroles pour les autres. C'est pas des critiques que les gens ont besoin. C'est pas des jugements, c'est des bonnes paroles. Des paroles bénissantes, des paroles qui font du bien. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Vous êtes beau, vous êtes fin, on vous aime. C'est toutes des vérités. On est tous beaux à cause de Jésus. Puis c'est toujours relatif de dire ça. Là. On n'a jamais dit qu'on était la personne la plus belle de la terre. On est tous beaux. Le Seigneur nous a créés comme qu'on est, puis on est beau pour quelqu'un. Chaque chaudron a son couvert.
Tu parlais pas de beau, tu parlais d'être fin. Tu vas dire que quelqu'un est fin s'il n'est pas fin? C'est ton nom en songe?
Même n'est pas fin, il y a ces moments qui peuvent être fins.
Quelque part dans sa vie, il est peut-être fin de toi.
Ouais. Au moins une fois, tu te concentres cette fois-là, puis donne-lui des encouragements.
Tu pries pour qu'il
devienne fin. Puis quand il en fait une gentillesse, tu l'encourages pour qu'il continue à en faire d'autres. C'est ça qu'on a besoin, des bonnes paroles. Dans Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. C'est ça qu'on a besoin. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, vous fasse du bien. C'est le fun, ça, là. C'est encourageant et bénissant. Ça peut arriver qu'on remarque des failles dans les autres. Quelles sont les meilleures réactions à avoir quand on remarque des failles, des problèmes dans la vie des autres? Dans Romains 14, 4, ça nous dit la meilleure des attitudes, c'est la réponse aux problèmes. Dans Romains 14, 4, il dit « Qui es-tu, toi qui juge un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. » Ça veut dire, il est peut-être à terre, là, mais il se tiendra debout. Ça, c'est une bonne parole. Ça va aller mieux. Il va relever. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affirmer. Alléluia! L'édification va venir du Seigneur. Fait que notre critique, c'était pour attirer un jugement de Dieu, puis ça va revenir contre nous. Fait qu'au lieu de ça, des bonnes paroles, Regardez, le Seigneur va le relever. Que le Seigneur te relève, te bénisse. Puis il va se tenir debout parce que le Seigneur a le pouvoir. C'est ça, parler avec foi. Ça fait partie des paroles de foi. Puis on va croire que Dieu va les relever. Amen.
Amen.
On va le confesser. Laissons le Seigneur prendre en main les situations et c'est lui qui remettra à chacun selon leurs œuvres. Dans 1 Corinthiens 4:5, ça dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu voit tout. Il sait ce qui se passe dans le cœur des gens, puis il sait leurs problèmes, leurs péchés, leurs faiblesses. Il connaît les miens, il connaît les vôtres. Puis, un jour, il va révéler les fonds des cœurs. Fait que j'ai passé ma vie à critiquer et à chialer contre ce gars-là. Il va révéler les cœurs, puis on va comprendre des choses. Puis Dieu va donner à chacun selon la louange qui lui sera due. Si c'est quelqu'un qui a été puni, le Seigneur va s'arranger avec. Si c'est quelqu'un qui doit recevoir des récompenses, le Seigneur va s'arranger avec. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui doit s'occuper des conséquences. Nous, dans notre cheminement, travaillons à essayer d'aider les autres à prendre le dessus, à se relever. Ils tombent, oui, mais on va les voir, on jase, on règle l'affaire, on les supporte, on les écrase pas, on leur donne des bonnes paroles. Puis le Seigneur, on croit que le Seigneur va les relever. Puis il va le faire parce que le Seigneur a le pouvoir des affermir. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ça fait du bien. Merci. Ça nous renouvelle dans notre vision de voir puis de soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ont des problèmes. Seigneur, donne à chacun d'être relevé. Tu nous dis en ces passages-là que tu as le pouvoir des affermir. Tous ceux qu'on connaît, Seigneur, qui ont des faiblesses, qui sont faibles, qui sont abattus, qui sont écrasés, qui sont découragés, qui sont rendus, qui sont plus là même. Relève-les, fortifie-les, puis ramène-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. On veut que tu les bénisses. Bénis nos ennemis, Seigneur. Tu nous dis de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent. On veut que tu bénisses nos ennemis, Seigneur, puis merci de ce que tu vas faire dans leur vie. Fais-leur du bien, puis aide-les à s'en sortir. Merci, Seigneur, de l'aide que tu nous as donnée pour qu'on puisse nous-mêmes s'en sortir. Puis continue à nous aider dans tous nos moments de faiblesse pour qu'on s'en sorte nous aussi. Et garde-nous debout, inébranlables, puis jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. On te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ.